quand on a pensé à cette journée avec les organisateurs, on s'est dit que ce serait intéressant d'aborder la question du coup des traductions de la Bible. Est-ce que traduire, c'est trahir? Et vraiment, je les remercie d'avoir pensé à cette question. Elle est vraiment très belle, elle est passionnante. Et on va commencer par cette préface dans la King James. Vous savez, c'est la Bible de référence en langue anglaise. Alors voilà la préface des traducteurs. La traduction est ce qui ouvre la fenêtre afin que puisse entrer la lumière, ce qui brise la coque afin que nous puissions manger l'amande, ce qui écarte le rideau afin que nous puissions contempler le Saint des Saints, ce qui soulève le couvercle du puits afin que nous puissions atteindre l'eau. Waouh ! Ça, c'est ce qui se passe avec une bonne traduction de la Bible. Mais du coup, on aurait pu passer la journée à montrer les bons exemples, si vous voulez, des belles traductions de la Bible. Mais j'ai un immense respect, évidemment, pour tous ces traducteurs des siècles passés, étant traductrice, moi-même. Mais je voudrais plutôt vous montrer ce dont on parle moins, c'est les a priori des traducteurs et comment ça a influencé aussi, du coup, leur choix de traduction. Donc, est-ce que traduire, c'est trahir? Non, mais je redis, traduire, c'est toujours interpréter. Bien sûr, ils étaient inspirés par l'Esprit Saint, mais enfin, on voit bien aussi qu'ils avaient les lunettes de leur époque. On a le droit, du coup, le droit d'inventaire par rapport au choix des traducteurs. Et l'un des antidotes, ça va être d'oser comparer plusieurs traductions de la Bible sur un même passage. D'accord ? Regardez ce quand on commence un projet de traduction de la Bible, on nous donne un manuel des traducteurs, et voilà ce qu'on lit. Il n'est pas possible de traduire sans déterminer le sens des textes grecs et hébreux. À cet égard, l'interprétation fait intégralement partie du processus de communication au cours duquel un message conçu dans une langue est présenté dans une autre. Vous avez le texte sous les yeux et il faut l'interpréter, il faut faire des choix. Pour vous donner une idée, rien que dans les évangiles, on a 700 endroits, 700, on dit pas 70 du coup, on dit 700,
non,
ça va
non,
700, 700, où on aurait pu traduire de deux manières différentes. Par exemple, Jésus avec Nicodème, en Jean 3, il te faut naître de nouveau ou il te faut naître d'en haut. Le grec arrive à dire les deux. Donc, votre traducteur, il ne peut pas mettre un slash, une barre entre les deux. Il te faut naître d'en haut, slash, de nouveau. Il doit en choisir un des deux. Et renoncer, il s'ampute d'une partie. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une Bible avec notes où on vous dira le sens aussi qu'il n'a pas pu retenir. Mais voyez, 700, rien que dans les évangiles, de ces cas comme ça, où ça pourrait être l'un ou l'autre. Donc, forcément, il faut faire des choix ici. On va se rappeler que traduire, c'est une entreprise difficile, avec ce très beau tableau de Jérôme, grand traducteur devant l'Éternel. C'est Martin Luther lui-même, traducteur de la Bible, qui nous décrit cette difficulté en ces termes. « Je sue sang et eau pour donner les prophètes en langue vulgaire. » Bon Dieu, pardon, c'est lui qui s'exprime. « Quel travail et combien difficile de forcer les écrivains hébreux de parler allemand. » Ne voulant pas abandonner leur hébraïcité, ils refusent à se couler dans la barbarie germanique. C'est comme si le rossignol, perdant sa douce mélodie, était obligé d'imiter le coucou et sa note monotone. Il a une langue hébraïque, vous voyez, impressionniste, etc. Et hop, il se retrouve à devoir traduire en allemand et il se heurte à des difficultés. Les Juifs, déjà, avaient souligné cette difficulté dans le Talmud, qui reprend la tradition juive. « Il ment celui qui rend un verset mot pour mot de façon strictement littérale. Il blasphème celui qui y ajoute quelque chose. » Donc, comme traducteur, vous avez le choix, blasphémer ou mentir. C'est la quadrature du cercle. Donc, pourquoi c'est difficile de traduire? D'abord, le non-recoupement entre les deux langues. Quand on ne connaît pas les autres langues, on pense qu'une langue, c'est une étiquette sur un mot, sur un objet, et il suffit de changer l'étiquette. Table, table, tiche, hop, vous changez l'étiquette. Pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une langue, c'est un filet jeté sur la réalité, et les mailles correspondent rarement d'une langue à une autre. Une langue, c'est aussi une conception du monde. Et donc la surface de sens d'un mot dans une langue recoupe rarement la surface de sens dans un autre mot. Il y a des mots qui veulent dire 10 choses différentes. Vous ne trouverez pas l'équivalent, il vous faudra 10 mots différents, en fait, vous voyez, pour rendre ça. Surtout que, alors on va prendre l'exemple du paraclète. Le mot paraclète, Jésus qui dit « Je m'en vais et je vous enverrai le paraclète ». C'est à la fois celui qui nous console, le consolateur, celui qui prend notre défense, notre avocat, et celui qui nous exhorte, qui nous encourage. Va trouver un mot en français qui dit tout ça. Si je dis « je vous envoie mon avocat », je ne dis pas qu'il me console et qu'il m'encourage. Si je dis « il m'envoie le consolateur », je ne dis pas qu'il va prendre ma défense. Alors la tobe, elle a tranché, elle a mis « je vous envoie le paraclète ». Lecteur, débrouille-toi. C'est pas une solution. Voilà. Mais voyez la difficulté. Hein, un même mot qui veut dire plein de choses, eh ben votre traducteur, il doit forcément du coup faire un choix ici. Hein. Dans la passion de Jean, Jésus, au moment où il va laver les pieds, il les a aimés, eistotelos, il les a aimés à la fois jusqu'à la fin et au maximum de ce qu'on peut aimer. Il les a aimés jusqu'à la fin et au maximum de ce qu'on peut les aimer. Comment on choisit ? Alors la tobe, là, des fois, on arrive à avoir un coup de génie hein, et ami. Il les a aimés jusqu'à l'extrême. Et extrême joue sur cette ambiguïté-là. L'extrême de la fin et l'extrême le plus possible qu'on puisse. Vous voyez, mais des fois, on arrive à jouer et à trouver... Mais c'est pas toujours possible. Deuxième difficulté, la différence de logique. La langue hébraïque, elle est très imagée. Elle aime les images. Comme certains dialectes hein, qui sont très concrets avec beaucoup d'images. Un tableau impressionniste touche par retouche, vous voyez. La langue française est analytique. Thèse, antithèse, synthèse. On nous a formaté, vous voyez. C'est très analytique, très abstrait. C'est une langue qui est très abstraite. Alors là, il y a un conflit. Le traducteur se dit, est-ce que je traduis littéralement l'image, quitte à ce que mon lecteur il soit perdu, il ne sache pas ce que ça veut dire, ou est-ce que je lui décode l'image et j'ai perdu l'image ? Pour dire la colère, l'hébreu dit qu'il y a de la fumée qui sort des narines. La fumée qui sort des narines. Donc, est-ce que je dis « il est courroucé » ou est-ce que je dis « il a de la fumée qui sort des narines » Vous voyez ? Pour dire la tendresse de Dieu. Ça, c'est un concept, c'est abstrait. C'est du français, ça, la tendresse. L'hébreu nous dit que l'utérus de Dieu frémit pour nous. Aucun traducteur n'a jamais osé l'utérus de Dieu. Vous voyez, il n'a pas plus de barbe que d'utérus, Dieu. Hein, il n'est ni homme ni femme, il est esprit, d'accord. Mais vous voyez, on a des images pour nous aider à comprendre quelque chose de lui. Et là, on nous dit, pour dire sa tendresse, que c'est comme un utérus qui frémit. Comment est-ce qu'on fait comme traducteur ? Est-ce qu'on garde l'image ou est-ce que là, on a un choc de différence de logique ? Vous verrez ça en Lamentation 3.22. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais en fait, on a le mot utérus, là. Ah, vous voyez, personne n'a osé, on a mis que des termes abstraits, bonté, compassion, voilà. Chouraki a osé. Non, les chérissements du Seigneur ne sont pas finis, ses matrices ne sont pas épuisées. C'est le seul, du coup, qui a essayé de rendre un petit peu ça. Autre difficulté, les différences culturelles. Quand vous ouvrez la Bible, c'est un peu comme si vous partiez en voyage. Vous plongez vraiment dans une autre culture. Dans les empires assyriens, romains, voilà, vous partez même ailleurs. Hein, et le problème du traducteur, c'est à quel point je rapproche le texte du lecteur, à quel point je fais un pont ou à quel point je le laisse aller vers le texte. Par exemple, au XVIIIe siècle, il y avait ce traducteur hollandais, il traduit en malais, et pour le récit du figuier maudit, il n'y avait pas de figuier là en Indonésie, bah, il a dit « le bananier est maudit ». Il n'y a pas de figuier, donc soit je mets une note comme ça pour expliquer ce que c'est qu'un figuier, soit je prends quelque chose qu'ils connaissent, le bananier est maudit, d'accord ? Donc, il y a un avantage, c'est que le lecteur comprend tout de suite, il y a un inconvénient, c'est qu'après, je ne peux pas faire la recherche partout dans la Bible de tous les figuiers pour faire des intertextualités et puis pour comprendre la culture du texte, vous voyez ? Donc, on est toujours partagé, hein, ici, en se demandant ça. À l'inverse, vous ne voulez surtout pas créer un contresens. Ça, c'est le pire pour le traducteur. C'est-à-dire que votre choix induit le lecteur carrément à l'inverse. Je pense au Liberia, par exemple, on nous a raconté qu'avant l'entrée d'un dignitaire dans une ville, il faut impérativement nettoyer tous les branchages qui sont au sol. S'il y a quoi que ce soit au sol, c'est une insulte à ce dignitaire. Comment vous leur expliquez les rameaux ? Les rameaux, vous déposez les vêtements, les couronnes pour honorer Jésus est le roi. Vous voyez, ils lisent les rameaux, ils sont choqués. Ils disent, mais ils ont vraiment voulu l'insulter. Non, c'est l'inverse. Et si vous réécrivez le texte, ça va poser d'autres problèmes, vous voyez. Alors, un exemple qu'on a eu, du coup, en Suisse, avec nos collègues suisses, quand on a fait la Nouvelle Français Courant. Sanhédrin, qui est une instance, du coup, dans le Nouveau Testament, pour les leaders du judaïsme, eh bien, notre traducteur avait naïvement proposé Grand Conseil. Et là, les relecteurs suisses ont bien rigolé. Ils ont dit, non, on ne va pas pouvoir mettre Grand Conseil. Sinon, tous les dimanches, il va y avoir des gros éclats de rire, quoi. Non, c'est une institution cantonale suisse, ne mettez pas grand conseil. Alors, on a réfléchi et on a mis conseil suprême. Mais voilà, il ne fallait pas que ce soit immédiatement identifié par le lectorat suisse, voilà, et objet de vous emmener vers un contresens. Voilà, le Sanhédrin n'est pas le grand conseil cantonal suisse, hein. Et puis, autre difficulté, eh bien, le traducteur n'a pas la possibilité d'expliquer. Il lui faudrait plusieurs mots, il faudrait qu'il ait des barres, là, des slashes. Donc, au minima, il vous faut une Bible avec des notes, hein, qui permet au traducteur d'avoir expliqué ses choix de traduction. Autre difficulté, la difficulté quand le grec et l'hébreu sont compliqués. Là, comment on fait, là ? Quand le grec et l'hébreu, quand c'est des apax, des mots rares qui n'apparaissent qu'une fois, vous voyez, là, c'est très difficile d'avoir le sens. Il arrive qu'on écrive pour les psaumes, pour Job, hébreu obscur. Là, le traducteur, le mot n'est plus du tout, ne se trouve nulle part ailleurs, il a beaucoup de mal. Alors, il regarde le contexte, voilà, hébreu obscur. Donc, ici, ça, c'est une difficulté. Ça s'est produit pour le Notre Père. Alors, quand même, le Notre Père, la prière que Jésus nous a laissée, on a envie de savoir ce qu'on prie et ce qu'il nous demande, hein, d'accord ? Donc, ici, ça s'est produit pour cette phrase, la sixième demande. Donc, je passe, ne nous laisse pas entrer en tentation, hein, on pourra y revenir dans les questions, qui a fait couler aussi beaucoup d'encre. Hein. Mais la difficulté, là, pour les traducteurs, c'était « Donne-nous notre pain ». Qu'est-ce que vous avez appris ? Quotidien de ce jour. Ça va dans le même sens, hein, d'accord ? Le mot grec qui est dit là, « epiousios », il est unique dans toute la littérature grecque de tous les temps. Jamais personne d'autre ne l'avait employé. Oh, là, c'est difficile à traduire, vous voyez. Après, on le retrouve après, puisque les pères vont le commenter. Mais voilà, c'est la première fois, du coup, qu'on le retrouve ici. Et on a essayé de dégager deux sens grâce à l'étymologie et aux mots qui sont proches. Ça peut être pour le jour qui vient, c'est la traduction que vous connaissez, aujourd'hui, demain, avec l'idée d'une quantité suffisante pour ce jour, d'accord ? Notre pain de ce jour. Ou bien... indispensable à la vie, super substantiel, la parole de Dieu comme pain pour nous. Et les orthodoxes l'ont traduite dans ce sens-là. Alors Notre Père, dans la traduction orthodoxe, il est comme ça. Donc là, ça nous pose question, pourquoi avoir choisi un terme qui n'apparaît nulle part ailleurs ? Eh bien, c'est un clin d'œil au lecteur, une intertextualité avec un autre passage qui parle aussi de nourriture et on a un mot inconnu. Dans le désert, pendant 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont mangé ? La manne. Eh ben, manne, c'est pas un mot hébreu. Manne, ça veut dire c'est quoi ? Ils ont mangé du c'est quoi ? Manou, c'est un interrogatif. Ils ont mangé du kézako, ils ont mangé du c'est quoi pendant 40 ans. Mais qu'est-ce que c'est ? Va chercher le qu'est-ce que c'est, va ramasser le qu'est-ce que c'est. Vous voyez ? Et donc c'est intéressant d'avoir aussi un mot là, du coup, unique, pour faire un clin d'œil, on appelle ça une intertextualité, on dit au lecteur, tu peux demander au Père ton pain de ce jour, ton pain essentiel, parce que souviens-toi comme il a été fidèle et comment il a pourvu pendant 40 ans dans le désert. Donc c'est ce genre de Dieu-là à qui tu peux demander ton pain. Il a pourvu. Vous voyez, il y a déjà un précédent. Et ça, c'est beau, hein, du coup. Alors, la Tob a réussi cet exploit de trouver l'ambiguïté. Le pain dont nous avons besoin, c'est à la fois le pain de ce jour et le pain essentiel. Voilà, elle a essayé de trouver ici un compromis. Mais dans les communautés orthodoxes, vous entendrez notre pain substantiel. Voilà. Là, c'est la parole de Dieu qui est notre pain, vous voyez. Autre difficulté pour le traducteur, la langue qui évolue. Bah oui, la langue française, évidemment, on parle plus comme à l'époque de Molière ou de... Hein. En moyenne, une Bible a besoin d'être révisée tous les 30 ans. C'est un peu plus long qu'une voiture, mais enfin, quand même, hein, voilà. Tous les 30 ans, hein, on a besoin de faire la révision parce qu'il y a des mots qui deviennent obsolètes. Et Marie partit en diligence. Wapa ! En diligence, ça veut dire diligemment, avec diligence, hein, voilà, avec diligence. Qui emploie encore ça ? Merci pour votre diligence, voilà, c'est un mot quand même assez rare. Le mot race, on a dû faire très attention, parce qu'alors aujourd'hui, il n'y a que l'extrême droite qui utilise ce vocabulaire-là. Il y a une seule race humaine, il n'y a pas des races, mais qui utilise ce vocabulaire-là aujourd'hui ? Plutôt, on va dire, très marqué sur l'échiquier. Et or, on l'avait, il y a 30-40 ans dans la langue française, ça gênait moins, on l'avait, alors que le grec et l'hébreu, évidemment, n'avaient aucune connotation raciste. Hein ? Mais en le laissant aujourd'hui, ça devenait quelque chose de raciste. Et Moïse alla voir ses frères de race. Oh, alors là, vous allez nourrir tous les antisémitismes, ses frères de race, vous voyez, qui va parler comme ça ? Et Moïse alla voir ses frères, les hébreux. Eh ben voilà, on résout le problème, vous voyez, pour ne pas induire chez le lecteur quelque chose qui n'y serait pas au départ. voyez, une conception raciste. Voilà, il faut faire attention aux mots qui évoluent. Celui qui nous a fait beaucoup rire, c'était en Malachie, quand on a fait la révision, donc de la français courant, qui avait déjà 30 ou 40 ans. Malachie nous dit « Ne présentez pas au Seigneur d'animal taré, de bête tarée. » Non, qui présente une tare. Ah ben voilà, ah ben aujourd'hui on ne dit plus ça, hein. Voilà, ça a vraiment évolué. On a fait la chasse aux sots dans les proverbes et aux concubines, parce qu'aujourd'hui ça veut dire autre chose. Écoutez cette traduction d'1 Corinthiens 7, 14 dans une traduction classique. Le mari infidèle est sanctifié par la femme fidèle et la femme infidèle est sanctifiée par le mari fidèle. Aujourd'hui, on va comprendre, hein, on va comprendre un vaudeville là, d'accord, avec le mari infidèle et fidèle, non. Alors on pense à un mari qui trompe sa femme et qui est infidèle et qui du coup est sanctifié. Pas du tout. Ici, on nous parle de croyants et de non-croyants. Vous voyez ? Et puis alors, dernier point, les présupposés des traducteurs. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête ce matin. Ils arrivent avec leurs lunettes confessionnelles, culturelles, de genre aussi. Hein. Et du coup, eh bien, c'est une des difficultés qui influence aussi leur traduction. Donc, on va regarder. Si aujourd'hui, on ne traduit plus comme Segond, Osterwald, Osti, Maretsu, Darby, vous pouvez tous les citer, eh bien, c'est non seulement parce que la langue a évolué, mais aussi parce que la culture ayant évolué, on se rend compte qu'on avait traduit de façon influencée par la culture. On a un recul, si vous voulez, et on se dit... Alors, ça veut dire que nous aussi, hein, on est sans doute influencés par la culture. Et nos successeurs voilà, s'en rendront compte. Mais donc, on a un droit d'inventaire par rapport à ce qui a été dit. Heureusement, le texte résiste, on l'a dit. Et finalement, on finit par trouver la vérité du texte aussi. Hein. Alors, on va commencer par les a priori doctrinaux. Quand on a tiré la couverture à soi du point de vue doctrinal, et je commencerai du côté catho, la paille catho, avant d'aller voir la poutre protestante, d'accord ? La paille du côté catho, c'est Hervé Le Grand, un grand ecclésiologue qui l'a identifié, en Éphésiens 4, 11. Dans beaucoup de traductions classiques, vous avez, donc par exemple, Bible de Jérusalem ou Hostie, c'est lui qui encore a donné aux uns d'être apôtres, évangélistes, pasteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère. Et dans d'autres traductions, vous aurez, comme dans la Nouvelle Français Courant, c'est lui qui a donné les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se constitue le corps de Christ. Alors vous avez peut-être besoin de relire pour voir la différence. Alors lui, il a sauté au plafond, en fait, en la voyant. C'est énorme, en fait, la différence. C'est le sacerdoce universel et le rôle des ministres. Quelle est l'articulation entre ministre et sacerdoce universel ? Sacerdoce universel, c'est tous les baptisés, hein, la dignité des baptisés qui, du coup, servent dans le corps. Et il dit, il condamne la traduction de la BJ, hein, et les traductions catholiques en général, traduction gravement erronée, dit-il, qui présente les ministres comme bénéficiaires des dons du Christ. C'est eux qui sont bénéficiaires des dons du Christ. Alors que, dit-il, dans le grec limpide de Paul, ce sont eux qui sont donnés aux autres pour la construction du corps. Au centre, les ministères sur autrui, ces traductions, les centres sur eux-mêmes. Il leur a donné d'être. On privilégie, dit-il, la personne du prêtre par rapport au contenu de son ministère, et ça a été un des facteurs de la crise des abus. Vous voyez, les effets d'une traduction. Nous, on a l'impression que c'est juste un mot pour un autre, mais en fait, lui, là, en tant qu'ecclésiologue, il voit bien les enjeux par rapport au sacerdoce universel. Éphésiens 5, 32, un passage sur le mariage, les relations femmes-hommes, ce sacrement est grand. Pour parler du mariage. Ah ben c'est pratique quand même si vous avez la Bible qui vous dit que le mariage est un sacrement. Alors qu'ici, évidemment, le grec nous dit ce mystère est grand. Et c'est par la traduction latine qu'on est passé à sacrement, mais qui du coup, vous voyez, comme ça a pu induire la lecture du coup vers un certain sens. Aujourd'hui, les traductions catholiques sont revenues à mystère, en disant, ouais, on avait quand même un peu tiré la couverture à nous, là, hein, d'accord. Acte 13, 2, beaucoup plus ancienne, une traduction du 17e pour vous montrer que ça date, hein. C'est un récit sur l'église à Antioche où Paul et Barnabas vont être mis à part. Pendant un jour, donc vous lisez ça dans les traductions d'aujourd'hui, un jour pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part Paul et Barnabas ». Eh bien, vous lisez dans cette traduction catho du 17e, pendant qu'ils disaient la messe. Ah, si les apôtres disent la messe, évidemment, vous voyez, il n'y a pas d'œcuménisme tellement possible, hein, pendant qu'ils disaient la messe. Les versions protestantes, arrivons aussi, elles ont leur altération. Alors je citerai celle d'Olivetan, c'est la première traduction en langue française, D'accord ? Première traduction protestante en langue française. Olivetan est le cousin de Calvin. Ça aide d'être le cousin du réformateur pour que ce soit votre Bible à vous qui soit choisie. On n'a pas choisi Castellon ou d'autres de la même époque. Hein, d'accord ? Et alors, regardez, là, il y a un vrai biais. C'est Luc 22, 15, le dernier repas. Et Jésus dit à ses disciples, par exemple dans la seconde, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Très bien. Et dans Olivetan, on avait rajouté un mot, un seul mot. « J'ai fort désiré de manger cet agneau de Pâques avec vous. » Pourquoi il fait ça à Olivetan ? On est évidemment dans un contexte encore de guerre de religion. Hein, pour distinguer la compréhension de la scène de l'Eucharistie du côté protestant et du côté catholique. Cet agneau est ajouté pour indiquer que Jésus n'a pas mangé une Pâque qui était son propre corps. Il a mangé une Pâque qui était l'agneau. Et regardez le tableau, c'est très rare de trouver des femmes dans les représentations du coup de ce céder de Pâques où les femmes étaient présentes. Hein. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est une autre conférence. 1 Timothée 2:1, vous lisez dans vos traductions classiques, priez pour tous ceux qui sont... Donc priez pour vos autorités, tous. C'est-à-dire même ceux pour qui je n'ai pas voté, même si je ne suis pas d'accord, je prie pour eux, d'accord ? Et donc, à nouveau dans cette Bible-là d'Olivetan, on avait enlevé le petit mot « tous ». Priez pour les autorités, pour ceux qui sont constitués. On l'a rétabli seulement un peu plus tard. Il y a eu un moment où le roi de France est considéré comme un antichrist et pour lequel on n'a pas envie de prier. En enlevant tous, ça fait que je peux choisir pour qui je prie. Ouais, ouais. Vous voyez ? Le texte résiste et finalement, on l'a réintroduit. Vous voyez ? Mais on sent bien hein, la tension du coup ici et les a priori. Ces a priori, ça date hein, déjà dans la Septante. Alors là, ça, vous n'aurez pas de mal à comprendre, Septante. La première traduction grecque de l'Ancien Testament, 70 traducteurs, 70 traducteurs, et donc on l'appelle la Septante. Vous voyez, tout le monde partout parle le suisse, en fait, hein, en disant la Septante. Très bien. Et donc la Septante, première traduction grecque de l'Ancien Testament. Ici, on a déjà des traducteurs au sein de la Septante, certains qui traduisent littéral, d'autres qui traduisent influencés par leur théologie. Et il y en a un, par exemple, il n'aimait pas rendre messiar, l'hébreu messiar, qui veut dire messie, hein, il n'aimait pas le rendre par Christos, parce qu'il y a eu reprise après par les chrétiens. À chaque fois qu'il y avait le mot messie, c'était traduit Christos, Christ, celui qui a reçu l'onction, loin. Et il avait trouvé du coup un autre participe. Voilà, vous voyez, c'était bien en réaction, hein, en fait, à cette relecture messianique des textes de l'Ancien. Alors du côté protestant, quand même, le plus gros, la plus grosse, ça a été la traduction du nom de Dieu. Comment on appelle Dieu ? Alors, vous le savez en repensant au psaume 23. Comment vous avez appris le psaume 23 ? Est mon berger. L'Éternel est mon berger ? Qui c'est qui le dit comme ça ? L'Éternel est mon berger ? Ouais, bah oui, vous l'avez appris comme ça. Et qui c'est qui dit le Seigneur est mon berger ? Ouais, eh bah oui, bien sûr. Non, mais tu n'es pas tout seul, il y en a beaucoup. C'est la majorité des chrétiens, en fait, hein, qui disent le Seigneur est mon berger. Qu'est-ce qui s'est joué ? C'est la traduction du nom le plus fréquent, du plus courant de Dieu. On l'appelle le tétragramme, ça veut dire les quatre lettres, Yod, He, Vav, He. C'est le nom le plus courant de Dieu. En général, partout, toutes les dénominations, à part les protestants francophones, toutes les dénominations du monde entier disent « le Seigneur ». On traduit « le Seigneur ». Pour deux raisons. La première, c'est que du côté juif, on n'a jamais prononcé ce mot-là. Par respect pour Dieu, son nom le plus courant n'est pas prononcé. On ne sait pas comment ça se prononce. Certains sont plus forts que les autres. Nous, on sait comment ça se prononce. Jéhovah, Yahweh, Yahvé, enfin voilà, hein, d'accord, le témoin de Jéhovah. C'est ce nom-là. Mais vous voyez, ils ont mis des voyelles. On ne sait pas comment ça... On n'a aucune idée de comment ça se prononce. Hein. Yahvé, Yahweh, bon, on ne sait pas. Donc, par respect pour ce nom, à la place, ils disent Adonai, qui veut dire Seigneur. Donc, à chaque fois qu'ils voient ce nom-là, ils disent un autre nom. Adonai, Seigneur. Et donc... La Septante, cette première traduction de l'Ancien Testament en grec, partout où il y a le tétragramme, elle dit « Kyrios, Seigneur ». Donc les auteurs du Nouveau Testament, quand ils citent l'Ancien, ils disent « Kyrios, Seigneur ». Donc « Seigneur » est devenu la traduction majoritaire dans le monde entier, « Lord, Herr ». Voilà, c'est devenu la traduction majoritaire de toutes les dénominations, toutes les langues, de tout le monde, voilà, sauf les protestants francophones. Les protestants francophones, première traduction, donc « Olivetan », on choisit éternel. Éternel. On va traduire, du coup, le tétragramme par éternel. Et donc, les Bibles depuis Olivetan, et ensuite Darby, Semer, Second, et toutes les dérivées de Second, hein, Nouvelle Bible Second, Second 21, tout le monde a éternel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors certains disent que c'est parce qu'on était encore dans une certaine féodalité et que le mot seigneur aurait trop renvoyé à un mot négatif. Le seigneur et ses sujets, finalement, sont, vous voyez, ses esclaves, et que ça aurait été encore un peu trop connoté négatif, seigneur. D'autres disent, les plus mauvaises langues, c'est parce que les protestants ont un peu de mal avec la soumission, donc du coup, appeler Dieu seigneur, c'est se soumettre à lui. D'autres disent, mais c'est parce qu'en fait, éternel, donc on a... Quelle différence, en fait, entre éternel et seigneur? Vous voyez, est-ce que vous touchez du doigt? Quand je dis éternel, ouais, qu'est-ce que vous sentez? Oui, c'est un de ses attributs. C'est une de ses qualités. Il est éternel. Enfin, il est bien d'autres choses, en fait. Vous voyez, on a choisi un de ses attributs, une de ses qualités. Avec Seigneur, c'est beaucoup plus relationnel. Avec Seigneur, vous dites, en fait, qu'il a une... Il y a l'accent sur la relation entre Dieu et l'humanité. Il est Seigneur, c'est-à-dire notre Seigneur. Il est notre Seigneur, et ici on fait sa volonté, ça souligne plutôt la caractéristique relationnelle, d'accord ? Donc, il est intéressant de voir que ça évolue, ça bouge, parce que vraiment on est les seuls au monde, hein, faut quand même en avoir conscience. Qu'est-ce que ça veut dire de s'arroger le droit de nommer Dieu quand même ? Non mais c'est ça qu'on a fait, on a choisi comment on nommait Dieu. Alors, comment on a choisi ce nom-là éternel ? Plutôt en lien, du coup, avec Exode 3, au buisson ardent, quand Moïse et Dieu discutent, et que Moïse dit « J'aimerais bien connaître ton nom », et qui lui répond un truc intraduisible « Je suis qui je suis, je serai qui je serai ». Là, vraiment, c'est impossible à traduire. Mais du coup, c'est une racine proche du verbe « être » et proche, là, du tétragramme. Et donc, c'est pour ça qu'on aurait eu une traduction un peu essentielle, ontologique, avec « éternel ». Voilà, c'est comme ça que ça aurait été apparu. Mais aujourd'hui, 300 ans après, là, plus... 500 ans avec la réforme, on peut se dire, est-ce qu'encore aujourd'hui, en fait, on a le droit de choisir, nous, comment on nomme Dieu? Alors que c'est bien une des choses qu'il nous est demandé de ne pas faire. Hein, je veux dire, voilà, c'est pas nous qui nommons Dieu, c'est lui qui choisit comment il s'appelle. Et donc, de plus en plus, dans de plus en plus de traductions, même protestantes, on choisit Seigneur. C'est pour ça que voilà, tu as déjà dit Seigneur. Tu as des traductions qui n'ont que Seigneur et plus éternel. Et petit à petit, ça va sans doute disparaître. Il y a sans doute un côté générationnel aussi. Moi aussi, j'ai biberonné avec l'éternel. L'éternel est mon berger. Mais je me rends bien compte que quand même, c'est un truc unique au monde. Et ça me pose question. Quand on est les seuls au monde à faire un truc, voilà, ça m'interroge. Je me dis quand même. Enfin, voilà, c'est... Alors, on pourrait faire... hein, voilà, mais non. Voilà, ça interroge. Donc, ici, éternel ou seigneur. J'en profite pour critiquer une nouvelle mode dans l'hymnologie protestante évangélique avec tous les chants qui parlent de Yahweh et de Papa Yahweh. Hein. Voilà, là, il n'y a aucun fondement biblique. Alors là, on colle des voyelles, on ne sait pas du tout comment ça se prononce, et on a l'impression d'être plus proche du cœur de Dieu, comme si quand vous dites Yeshua, vous êtes plus exaucé que quand vous dites Jésus. Enfin, vous voyez, voilà. Là, ça contribue vraiment à... Il y a un problème, là. Là, il y a un problème. Par rapport au nom de Dieu, on peut aussi se rappeler, avec beaucoup d'émotion, le choc que ça a été la première fois qu'on a tutoyé dans le Notre Père. Et ça vient de l'œcuménisme, en fait. Voilà. C'est les protestants qui, avec Olivier Tan, première Bible protestante, tutoient dans le notre Père qui est aux cieux, ce qui veut dire qu'on le tutoie. Pendant longtemps, du côté catholique, on a vouvoyé notre Père qui est aux cieux. Et il a fallu attendre la traduction œcuménique, dont je reparlerai tout à l'heure, pour qu'on arrive à basculer au tutoiement. Et l'impact que ça a eu aujourd'hui, c'est évident hein, de tutoyer Dieu, mais un impact énorme, hein, si vous voulez, quand on a pu tutoyer Dieu. Regardez d'ailleurs sur le texte qui n'est pas œcuménique, « Je vous salue Marie », on est resté au vouvoiement. Là, il n'y a pas eu l'impact hein, d'accord œcuménique. Les a priori des traducteurs. Alors, ici, hop, on a un autre gros morceau. C'est les a priori, les présupposés sexistes des traducteurs. Et alors là, qu'ils soient catholiques ou protestants, hein, ils ont ça en commun. Il se trouve que pendant longtemps, ça a été des hommes, les traducteurs. Hein, mais donc, ils étaient un peu les enfants de leur époque. Dans une époque où la société n'était pas égalitaire par rapport à hommes-femmes, ils n'ont pas vu les trésors d'égalité qui étaient dans le texte. Leurs lunettes culturelles leur ont fait orienter les traductions sexistes. On va prendre un exemple important, parce qu'il est lu à tous les mariages, et c'est le moment où la mariée baisse les yeux et regarde ses chaussures et attend que ça passe. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je vais lui faire une... » Aide, ouais, la plupart du temps vous entendrez aide, je vais lui faire une aide qui lui soit accordée, ça c'est la taube. Et en effet la plupart des traductions modernes ici nous disent aide, voilà un mot fourre-tout, qui a contribué à nourrir l'impression que la femme serait finalement une auxiliaire, une servante, une esclave. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est une aide ? Elle repasse ses chemises pendant qu'il progresse dans sa carrière ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, comme si on avait là le programme de ce qui était annoncé pour les relations femmes-hommes. Voilà une traduction fourre-tout bien en deçà de ce que l'hébreu proposait. L'hébreu est riche et beau. L'hébreu nous dit « Ézer kenegdo ». Ézer, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu dans Ebenezer, Eliezer, Ézer. Comment on fait pour traduire, quand on est traducteur ? C'est pas au feeling, hein. Ah, moi, ce mot-là, je le sens bien, là, je vais dire ça, j'ai envie de dire ça. Non. C'est scientifique, hein. On fait une étude de mots. On prend le mot sous le bras et on regarde partout où il est employé. On commence d'abord par le corpus biblique, et puis, si besoin, on va même chercher aussi la littérature extra-biblique. On regarde tous ses sens et on revient au texte qu'on traduit pour voir, du coup, quel est son sens. Là, c'est ce qu'on fait pour Ézer. Alors, Ézer décrit une collaboration lorsque la force d'une personne est insuffisante. Wow. On est en train de parler d'Adam, là, en fait. Il avait besoin d'être sauvé. Partout ailleurs dans l'Ancien Testament, c'est traduit « secours »,« soutien », »,« salut ». Dans l'immense majorité des cas, c'est Dieu qui est mon Ézer, mon soutien, mon salut, mon secours. Il ne vous viendrait pas à l'idée de dire que Dieu est votre aide. Ou alors, vous le nourririez, vous voyez, il est plus que votre aide. Il est votre salut, votre secours, votre soutien. Vous aviez besoin d'être sauvé. Le texte de la Genèse est en train de nous dire que Adam avait besoin d'être sauvé. De quoi ? De l'entre-soi. Il a besoin d'altérité. C'est le mot chic pour la différence. Il a besoin de l'autre. Il a besoin de... Vous voyez, et Dieu lui présente d'abord les animaux, comme Ézer, Kenegdo, et ça ne marche pas. Ça ne peut pas être des vis-à-vis qui vont le secourir. Voilà. Il faut de la ressemblance et de la différence. Et donc, du coup, Ézer, c'est très beau ici, soutien, salut, secours. Et ici, du coup, alors vous l'avez par exemple dans la Nouvelle Français Courant, alors ça, c'est la tobe classique, hein. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Voilà le Ézer, capable de le secourir. Parce que, du coup, il est qualifié, ce Ézer. Ce secours, il est kenegdo. Là aussi, on fait l'étude de mots, littéralement comme en face de lui. Lui correspondant. D'où le vis-à-vis, hein, d'accord ? Lui correspondant, comme en face de lui. Et dans la racine de kenegdo, vous avez nagad, c'est communiquer, parler, dire. Ça veut dire que ce vis-à-vis, ça va être par la parole. Je n'ai pas dit qu'elle était bavarde. Hein. Ça veut dire que c'est par la parole qu'ils vont se construire. Hein, d'accord ? C'est par la parole ici, la communication. Et du coup, comme en face de lui, il y a aussi dedans front à front. Ils sont placés l'un en face de l'autre, front à front. Il va y avoir de la résistance. Il va y avoir du conflit. Oh ! Or, nous avons une image très négative du conflit. On pense toujours que le conflit, c'est après la chute. Et non, le conflit, je ne parle pas de la guerre qui est du conflit qui a dégénéré. Hein. Je parle du conflit qui permet à chacun de dire ses désirs et ses peurs. Si dans deux personnes, un couple ou dans la vie, hein, il y a deux personnes qui disent leurs désirs et leurs peurs, ça va clasher. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y en a un qui en fait a pris l'ascendant et qu'il n'ose pas exprimer ses désirs et ses peurs. Nos désirs et nos peurs ne sont jamais totalement correspondantes, hein, d'accord ? Donc en disant nos désirs et nos peurs, il va y avoir de la résistance, du conflit. Ils sont front à front. C'est ce que nous dit aussi le texte ici, de manière très belle. À l'homme et à la femme de savoir si cette résistance sera positive ou destructrice, hein, d'accord ? Mais donc vous voyez que là, c'est la traduction sexiste de ce mot « aide », « ézer », hein, qui nous a fait passer à côté de ce que voulait le cœur de Dieu, si vous voulez, là, pour les relations hommes-femmes. Un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Voilà ce qui est prévu, voilà ce qu'on devrait dire au mariage. Hein, d'accord ? Là, évidemment, ça aurait de la gueule. Hein. Autre exemple très important de traduction sexiste, c'est les textes avec le mot grec « anthropos ». Vous connaissez l'anthropologie. Donc le grec a la possibilité de dire « homme, mâle, c'est aner, mais il a un mot pour dire homme et femme, être humain, c'est anthropos. D'accord ? Donc du coup ici, ça c'est très important, anthropos, ça veut dire être humain. Quand le grec entend anthropos, il sait qu'on veut dire homme et femme, on veut dire être humain. Mais vos traducteurs en langue française, ils ont décidé quoi ? De tout rendre pareil par homme. que ce soit aner qui veut dire homme, mâle, ou que ce soit anthropos qui veut dire femme et homme. Du coup, vous, lecteurs en français, vous ne savez pas ce qui était l'intention de Paul ou de l'évangéliste. Est-ce que les femmes étaient incluses et comprises ? Et ce n'est pas anecdotique, on parle de textes, par exemple, qui touchent à la place de la femme dans l'Église. Vous voyez ? Donc, on va regarder. Dans la multiplication des pains, on nous dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est bien le mot « homme » qui est employé, donc là, on le laisse. Mais dans d'autres passages, au hasard, je prends ceux de Paul, hein, voilà, au hasard. 2 Timothée 3,17. « Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » C'est même une catégorie dans certaines églises, les hommes de Dieu. Mais le grec, lui, il nous parle ici de personnes, d'accord ? Il nous dit « anthropos ». Les femmes aussi sont parfaitement préparées et équipées pour accomplir toute œuvre bonne.
Amen.
Ça change quelque chose. Ça change quelque chose. Regardez celui-ci, on monte d'un cran. Là, c'est sur l'enseignement de Timothée 2,2. « L'enseignement que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à qui ? À des hommes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Et là, vous avez la liste des Bibles qui disent ça. Hein. Donc quand je lis ça en français, je me dis que l'enseignement, c'est des hommes, par des hommes, pour des hommes. L'enseignement est réservé aux hommes. Et en plus, je pourrais dire, regardez, c'est écrit, noir sur blanc.
Ouais.
Mais le grec, lui, ici, dit « anthropos ». L'enseignement que tu as reçu, transmets-le à des personnes dignes de confiance. Et il y a des enseignantes dans les collaboratrices de Paul. Pensez à Priscille. On dit aussi Priscilla, Prisca. Priscille, il la félicite pour l'enseignement qu'elle a apporté à Apollos. Apollos a lui-même ensuite enseigné Corinthe. Donc Priscille, non seulement elle est enseignante, mais en fait, elle est enseignante d'enseignants. Il la félicite. Vous voyez ? Et il y a des enseignantes. D'accord ? Et donc ça, c'est le genre de traduction qui a fait beaucoup de dégâts. Des traductions sexistes de l'écriture, ici. Hein. Alors, écoutez celui-ci aussi. Même chez les plus conservateurs, ils y viennent. Parce qu'ils se sont bien rendus compte eux-mêmes des ambiguïtés, sinon qu'ils étaient en train de créer. Dans le débat qu'on a eu sur le mariage, la bénédiction des mariages de personnes de même sexe, Luc 17, 34. Écoutez ce que la Taube disait. Et je vous parie qu'à la prochaine révision, ça va changer. À propos du jour du retour du Seigneur, où une personne sera prise et pas ses proches. « Je vous le dis cette nuit-là, deux hommes seront dans le même lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. » Eh ben oui. Donc en fait, voyez, donc ça peut être compris hein, d'une certaine manière que d'autres ne voudraient pas. Et du coup, là, ils ont envie d'aller voir ce qu'il y avait dans le grec. Ah ben oui, non, on ne parlait pas de deux hommes, on parle de deux personnes, voyez, de deux personnes. Donc petit à petit, ces traductions, on va dire, non sexistes, le vrai mot, c'est « épicène hein, ». Si vous voulez, ça nous vient de Suisse. De l'administration suisse et canadienne. Épicène, ça veut dire qui inclut aussi les femmes. C'est-à-dire que si les femmes sont dans le grec et l'hébreu, il faut qu'en français, j'ai une traduction qui inclut aussi les femmes. Épicène. On évite inclusif parce que ça veut dire autre chose dans certains milieux. Mais du coup, épicène, ça s'appelait à tout le monde. Ça va, c'est un terme administratif, si vous voulez. Hein, et qui, du coup, là, il s'agit d'avoir une traduction, non pas de réécrire la Bible, mais à l'inverse, d'être fidèle à ce qu'il y avait dedans. Et que nos traductions avaient perdu de vue ici, si vous voulez. Alors, il y a beaucoup d'exemples par rapport à Anthropos. Si vous voulez aller plus loin, c'est dans le livre « La Bible est-elle sexiste ?» que j'ai écrit. Il y a tout un chapitre. Je commence le livre par ça, en fait. En parlant des traductions sexistes, vous verrez, il y a beaucoup d'exemples. Mais là, je vous donne quelques exemples. Vous voyez dans la colonne de gauche, quand c'est une traduction qui est plutôt orientée sexiste, et à droite, une traduction épicène, d'accord ? Regardez Romains, « Que Dieu soit vrai » et tout homme menteur. Bah, les femmes aussi ont le droit d'être menteuses. Vous voyez, pour vous dire que ce n'est pas aussi que des passages positifs, mais hein, c'est de dire, voilà. Éphésiens, j'aime beaucoup, hein, quand on nous demande de cultiver en nous l'homme intérieur. Ça, c'est difficile de cultiver l'homme intérieur pour une sœur. Hein. Ça veut dire quoi, de cultiver l'homme intérieur ? Alors, en fait, c'est l'être intérieur. Hein. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai aussi pour lui, bah, publiquement, devant tout le monde. Voilà, ce n'est pas juste devant une assemblée, etc., etc. Un des exemples que je préfère. Les collaboratrices de Paul. En Romains 16, Paul salue ses collaboratrices. D'accord ? Et du coup, pour un misogyne, Paul n'est pas le misogyne qu'on pense, hein, pour un misogyne, il y a 10 femmes sur les 30 collaborateurs, collaboratrices qui saluent. Tryphène, Tryphose, Persis, ce n'est pas des noms de maladies. Hein. C'est des noms féminins. Hein. Tryphène, Tryphose, c'est des noms féminins. Mais on les a, voyez, on n'a pas vu que c'était des femmes. Tryphène, Tryphose, Persis, Julia, d'accord, Phoebé, on va y revenir, et Junia. en Romains 16, 7, il salue une apôtre remarquable. Vous vous rendez compte, s'il y a une apôtre remarquable, c'est peut-être les autres textes de Paul qu'on n'a pas très bien compris et qu'on a orienté. Sinon, on a un Paul complètement schizo qui, d'une part, salue une femme apôtre et de l'autre, leur dirait de ne pas parler. Bon, non, c'est qu'on a mal compris, là, les textes, on les a sortis de leur contexte. On pourrait les reprendre si vous le souhaitez. Mais donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il salue Andronicus et Junia, mes parents, mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents, remarquables. Oui, mais vos traducteurs, gênés par la présence d'une femme apôtre, ont masculinisé ce prénom en rajoutant un petit S, Junias. Première opération transgenre de tous les temps. Et Madame Junia, apôtre, est devenue Junias, Monsieur Junia, ici. Alors que jusqu'au... Donc, on a mené l'enquête très précise. Tous les manuscrits grecs du Nouveau Testament sont au féminin. Tous les pères de l'Église, quand ils prêchent et qu'ils commentent, parlent d'un féminin. Le prénom Junias n'existe même pas au masculin. On l'a inventé. Vous voyez, donc il y a vraiment énormément d'indices, hein, si vous voulez, concourants. Et l'argument principal pour dire « mais non, c'est Junias », on le lit, hein, dans les commentaires de traducteurs, etc. Bah, c'est tout simplement parce que c'est impossible qu'il y ait une femme apôtre. Donc on masculinise le prénom. Vous voyez comment ce sont les a priori doctrinaux qui influencent la traduction. On ne dit pas que dit le texte, on dit mais enfin c'est impossible, donc, donc il faut masculiniser. Vous lisez ça dans les dictionnaires même, hein. Oui,
enfin, ça paraît tellement...
Énorme.
Comment ils ont pu faire ?
Énorme. Alors ils l'ont fait qu'à partir du 13e. C'est au 13e qu'on voit le basculement. Clairement, hein, dans l'histoire de toutes les traductions, parce qu'il y en a des milliers de traductions, c'est des traductions en syriaque, en copte, en éthiopien. Vous voyez, au fur et à mesure de l'expansion du christianisme, on a traduit la Bible. Toujours au féminin. À partir du 13e, on décide de traduire au masculin. Et le 13e, c'est pas anodin, c'est une période d'énorme resserrement de vis pour les femmes. On leur interdit l'accès à l'université, on les enferme dans les monastères. Enfin, voilà, c'est une période vraiment... Voilà, le 13e. Et c'est à partir du 13e... qu'on aura, et malheureusement même un Luther et tout ça, auront du masculin, alors que ici il y a clairement ici un féminin. Donc il y a une collaboratrice femme, même Chrysostome, l'évêque ici de Constantinople, pardon, Chrysostome, il écrit ça en 407 à propos de Junia, et écoutez sa surprise. Être un apôtre est une grande chose. Être remarquable parmi les apôtres, imaginez donc quel merveilleux éloge. De fait qu'elle ne dut pas être la sagesse de cette femme pour qu'elle soit jugée digne du titre apôtre. On sent qu'il n'en revient même pas, si vous voulez, ça l'étonne. Il dit, c'est quand même étonnant, cette histoire. Vous voyez, lui-même dit son étonnement. Mais il ne conteste pas, c'est évident pour tout le monde qu'on parle ici d'une femme. Ça, c'est un élément important, vraiment, dans la sexuation. Alors, je voudrais que vous fassiez l'expérience vous-même. On va distribuer, du coup, un exercice. Et vous allez regarder par vous-même, on va comparer plusieurs traductions du même verset de Romains 16, ce chapitre où il salue ses collaborateurs et ses collaboratrices. C'est Phoebé, c'est notre cher Phoebé, Phoebe, Phoebé. Vous allez voir, je vous ai mis donc 5 traductions différentes du même passage. Je vous propose de vous tourner vers votre voisin, votre voisine, qui est devenue votre meilleure amie, là, voilà. Vous lisez ensemble ces traductions et vous essayez de voir comment les mêmes mots ont été rendus de façon différente. On prend plusieurs minutes pour ça, d'accord ? Lisez ces traductions et essayez de voir comment les mêmes mots ont été rendus de façon très différente. Voilà, je vous invite à nous rejoindre. Les deux mêmes versets dans des traductions différentes. Est-ce qu'on a l'impression qu'on nous parle de la même personne ? Vous voyez ? Phoebé. Alors, comment vous avez remarqué que les termes étaient rendus ? Qu'est-ce que vous avez vu comme différence de termes ?
Responsable,
diaconesse, ministre ou servante. Pour le même mot, là, vous avez 4 mots qui vous envoient, qui vous projettent des images mentales très différentes. Servante ou ministre ou diaconesse, vous voyez ? D'accord. Et puis, quoi d'autre ? Protectrice, regardez le dernier verset. La raison pour laquelle on doit lui venir en aide. Elle est protectrice ou elle m'a aidée ? Elle a donné aide. Elle m'a donné un coup de main. Est-ce qu'elle a besoin ? Oui, elle a besoin. D'accord ? Après, il y a d'autres différences de traduction, mais qui ne sont pas liées aux femmes. Croyants, saints, vous voyez ? Ça, c'est pas ce qu'on sait. Oui ? Ici, vous voyez, il va falloir qu'on fasse l'étude de mots. Ça ne peut pas être au feeling. Hein. Comment est-ce qu'on va s'en sortir hein. Donc ça, c'est très intéressant. Alors ici, elle est d'abord présentée comme diakonos. Le premier terme que vous avez repéré, d'accord, qui est ministre, diaconesse, servante, etc., c'est diakonos. D'accord. Ce mot-là, il est très courant dans le Nouveau Testament. Il décrit beaucoup de collaborateurs de Paul, hein, que ce soit Sylvain, Tichique, Epaphras, Archippe, etc. Et en général, donc, ça recouvre plusieurs choses. C'est le médiateur, l'intermédiaire. Donc souvent, c'est celui qui porte la parole. Celui qui annonce la parole, d'accord, qui prêche la parole, qui annonce la parole, ici. Ou bien, c'est aussi celui qui est l'intermédiaire dans le sens qui porte la lettre. Et là, comme il la salue en premier, ça pourrait tout à fait être celle aussi qui porte la lettre aux habitants de Rome. Et alors, attention, ça ne veut pas dire qu'elle est la factrice. Quand vous portez la lettre à l'époque, c'est que, on vous fait confiance, c'est que vous allez la lire à la communauté et répondre aux questions. On parle de l'épître aux Romains quand même, hein, voyez, l'épître théologique vraiment par excellence. Et ce serait une femme, du coup, qui lui fait confiance. En tout cas, il faut éviter ce terme de diaconesse qui est anachronique. Là, vraiment, second, en 1910, il fait un anachronisme parce que les diaconesses, ça va exister à partir du 3/4 de notre ère. Avant le 3/4, ça n'est pas en soi, si vous voulez, une fonction. Là, il nous induit vers une fonction spécifique qui, aujourd'hui, veut dire voilà, plutôt engagé dans le social et très important dans l'Église. Mais c'est une fonction spéciale, un ministère spécial qui n'apparaît qu'au 3/4 de notre ère, au moment où on n'a plus voulu des femmes en situation de responsabilité pastorale. Il faut dire les choses. Et donc, il fallait bien leur donner un titre, un nom. Et donc, on a inventé là ces diaconesses et ce diaconat. Hein. Donc ici, c'est intéressant de voir comment ce même terme ne veut pas du tout dire la même chose. Quand vous dites qu'elle est servante, elle a préparé le café pour la sortie du culte, ou elle est ministre et donc elle y a prêché. Vous voyez, on ne dit pas du tout la même chose ici. Hein. La raison pour laquelle il faut lui venir en aide, c'est parce qu'elle a été prostatis. Voilà ce qu'on nous dit ici, hein, le grec. Donc ça, c'est un mot qui implique du prestige. Un gouverneur, un bienfaiteur, un dirigeant, un patron, on le dit par exemple avec des mots qui sont proches de celui qui préside la communion, celui qui exerce une autorité, qui dirige. Donc vous voyez que c'est bien plus fort que simplement « elle m'est venue en aide ». Elle m'a dépanné, une nuit je ne savais pas où dormir, je suis allée chez elle, vous voyez. C'est ça qu'on comprendrait par « venue en aide ». Et ça peut aussi impliquer autre chose, vous voyez, c'est des mots riches qui peuvent vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être aussi un renvoi au système de patronage, qui existait donc au moment de l'Empire romain, où quelqu'un, un bienfaiteur, une bienfaitrice, et donc là, il remercierait aussi sa bienfaitrice. Elle avait un carnet d'adresses, une grande maison, et donc elle a pu mettre à disposition tout ça et être sa patronne. Vous l'avez dans le sens du coup du patronage aussi, hein, sa bienfaitrice, on dirait aujourd'hui. Mais la combinaison des deux, le fait que les deux fonctionnent ensemble, nous renvoie bien au fait que Phoebé, dans cette église de Sancré, donc c'est près de Corinthe, elle a une situation de dirigeante, elle a une situation influente, vous voyez. Et il la remercie, c'est pour ça qu'il la salue en premier aussi, hein. C'est la première là, de tous les, avant même tous les autres collaborateurs, c'est elle qui le salue, il est reconnaissant, il en est fier, et il s'en cache pas, hein. Il le dit, voilà, ici, hein. Donc c'est bien une dirigeante d'église, une ministre de la parole, une patronne, une patronesse si vous voulez. Et c'est les traducteurs qui nous ont mis Phoebé sous le boisseau. C'est Phoebé a été rendue invisible. Elle n'est pas spontanément quand vous pensez aux dirigeants de l'église primitive, des premières églises, vous ne pensez pas à Phoebé. Vous pensez à Timothée, vous pensez à Sylvain, vous pensez à Paul, vous ne pensez pas à Phoebé. Vous voyez, c'est le choix des traducteurs qui là nous les ont rendus ici invisibles. Et là on a vraiment, on va dire une fenêtre ouverte sur ces communautés du 1er siècle qui nous montre toutes les collaboratrices de Paul qu'il apprécie et qu'il reconnaît. Oui. Le fait qu'elle soit présentée comme sœur, ça c'est intéressant. Elle n'est ni mère de, fille de ou femme de. Pour le coup, en effet, c'est très rare. Dans l'Antiquité, la seule manière de présenter une femme, c'est comme femme de ou fille de. Ou... Là, elle est présentée comme sœur. Il y a eu une révolution avec l'apparition du christianisme. D'une égalité. Aujourd'hui, on est tous frères et sœurs, voyez. De voilà, ça c'est un mot fort. Voilà, ça, ce mot-là est très fort ici. Hein. En tout cas, l'Église anglicane, par exemple, quand elle commente ce chapitre, elle nous dit il peint une image vivante de l'Église dans laquelle les femmes et les hommes exercent leur ministère ensemble, où les dons de chacun sont appréciés et valorisés. C'est une image qui reflète fidèlement Galates 3. Il n'y a plus ni homme ni femme, où les divisions sur la base du sexe sont abolies. Et donc, quand on voit ces traductions aussi orientées, On peut se poser la question que se posent tous les enquêteurs quand ils mènent une enquête sur un crime, à qui profite le crime. Vous voyez, à qui ça a profité du coup ces traductions-là, d'accord ? Ça va sur cet exercice ? Question sur cet exercice-là ? C'est un exemple, hein ? Oui ? Alors, ça joue un rôle dans un passage très important. Je ne l'ai pas mis là, parce qu'il y avait tellement de choix. 1 Pierre 3,7. Plus aucun prédicateur n'ose prêcher là-dessus parce qu'il a peur de se prendre des tomates. À cause des traductions qui n'ont pas aidé, c'est le sexe faible. C'est le passage qui dit « Honorez vos femmes comme étant le sexe faible ». Oh là là, il n'y a plus aucun traducteur qui ose... aucun prédicateur qui... Là, il y a eu un souci, et ça va dans le sens de ce que vous dites. Le grec nous dit « Hommes et femmes sont tous les deux des skeos, des vases, et il y en a un qui est plus fort que l'autre. » Il nous parle de la force physique. Et il dit, à partir de ce constat-là, de l'un qui est plus fort que l'autre, c'est un constat général, c'est pas pour toutes les femmes, mais c'est un constat en général, on va dire. Dans la société, il dit, bah, face à ça, c'est la loi du plus fort, c'est celui qui est plus fort qui impose sa loi. Et ben, dans votre couple et dans l'Église, il n'en sera pas ainsi. Respectez-les. Elles sont un vase féminin plus fragile, donc on va dire voilà, une force différente. Et du coup, vous ne pourrez pas tirer avantage de votre force physique, mais honorez-les comme devant cohériter avec vous de la grâce. Et faites ceci pour que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ouais. Il est incroyable ce passage, en fait, d'1 Pierre 3,7. Mais à cause d'une traduction qui a essentialisé et qui a basculé ce que os à sexe faible, bah évidemment, il est détesté, ce passage-là. Alors qu'en fait, il dit quelque chose de super intéressant. Oui, il y a une différence de force physique, mais vous ne pourrez pas en tirer parti. Justement, dans le couple, ça sera différent que dans la société de la loi du plus fort. C'est très beau. C'est très beau, hein. Donc, notre phobé, ça va. Ah oui, et donc, si vous voulez creuser la question, il y a un livre qui s'appelle, de Hepp, qui a été traduit en français, « Junia, une apôtre ressuscitée par l'exégèse ». Et ça reprend notamment toute l'histoire de Junia dont on a parlé. J'aime beaucoup le titre. Une apôtre ressuscitée par l'exégèse. C'est en effet les exégètes modernes, en recreusant tous les manuscrits, hein, tout ça, qui se sont rendus compte que c'était bien un féminin. Oui, oui, mais ça dit quand même bien une femme au service de l'Église, enfin, dans le sens, voilà, et ça dit bien un ordre, un ministère particulier, elles sont reconnues, ça, les diaconesses, il y en a chez les cathos, chez les protestants, voilà, c'est reconnu comme un ordre spécifique, comme vous dites, le social, l'infirmière, le... mais pas forcément celle qui est en position de responsabilité dans l'Église. Et qui va prêcher et présider la scène. Enfin, vous voyez, voilà, c'est ça dont il est question. Dans l'Église catholique actuelle, c'est aussi une des questions en ce moment, du coup, le diaconat féminin, sachant qu'en plus, du coup, du côté catho, on sait que c'est une marche vers la prêtrise. C'est ça qui envenime les conversations. On ne peut pas avoir une conversation neutre sur le diaconat, parce qu'en fait, derrière, pour eux, ce serait la première étape vers, en fait, ensuite, après, la prêtrise. Alors, je voudrais revenir sur d'autres a priori, brièvement. Il n'y a pas que les a priori sexistes, même si c'est ceux qui me tiennent très à cœur. Il y en a d'autres. Il y a aussi des a priori, des traductions orientées par rapport à la vie chrétienne ou à l'éthique. Je pense à ce passage d'Éphésiens qui explicitement encourage à se mettre en colère. Il y a des situations qui demandent à ce qu'on se mette en colère, qui ne sont pas normales. Il y a de l'injustice et on doit se mettre en colère. Mettez-vous en colère. Mais ne péchez point. La limite qu'on met à notre colère, c'est qu'elle ne doit pas se transformer en péché. Et là, ça a beaucoup gêné. Et il y a des traductions qui auront... Êtes-vous en colère ? Ne péchez point. L'impératif qui est là et qui est très clair en grec, qui dit du coup qu'il y a des situations qui demandent notre colère, eh bien, on l'a un petit peu réduit. La colère à sa place face au mal dans la vie chrétienne, souvenez-vous de la sainte colère de Jésus, hein, face à l'endurcissement du cœur, dans le temple, voilà, il y a des endroits où il s'est mis en colère. Or, il n'a jamais péché, donc voilà, la colère a sa place aussi. Il y a des choses qui doivent nous révolter. C'est pas normal, c'est pas normal. Mais, vous voyez, la tombe, pour pas la citer, êtes-vous en colère ? Ne péchez pas. Autre passage, du coup, ah oui, j'ai pas mis les exemples, c'est Genèse 12.1. En Genèse 12.1, c'est l'appel de Dieu à Abraham. C'est très beau. L'appel de Dieu à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Ici, en hébreu, on a quelque chose d'important. On a ici l'er lera, littéralement, va vers toi-même et quitte. Évidemment, aucun traducteur n'ose rajouter ça. Ça paraît bizarre. Va, va et quitte, quitte, mais va vers toi-même. Et en fait, c'est très beau parce que ça veut dire que dans l'appel d'Abraham, en suivant Dieu, il va aussi se trouver lui-même. Qui il est, son identité, vous voyez, c'est une très très belle formule. Mais pareil, est-ce qu'on veut nourrir l'individuation, hein, pas l'individualisme, mais l'individuation, le fait d'être pleinement sujet, de trouver qui je suis, ben oui, là vous avez un exemple ici avec Abraham. Alors, vous pourriez vous dire, du coup, mais que faire, hein, quelle est la meilleure traduction? Voilà, ben, l'antidote, c'est d'avoir plusieurs traductions. L'antidote, c'est d'oser comparer plusieurs traductions. On a la chance en français d'en avoir une vingtaine, hein, d'accord? Il n'y en a aucune qui est idéale. Il y en a peut-être qui sont pires que les autres, mais il n'y en a aucune qui est idéale, d'accord? Et on va se rappeler les deux grandes familles, ben voilà, Abraham. On va se rappeler les deux grandes familles, si vous voulez bien, ici, en français, en langue française qu'on a. Vous avez les traductions littérales, formelles, c'est la plupart des versions françaises, Darby, Colombe, Jérusalem, Second, Synodal, Tob. Donc littéral, ça veut dire on privilégie la langue source, comme quasiment un décalque par rapport à l'hébreu ou au grec, quitte à ce qu'en français, ce soit difficile à comprendre. Lecteur, débrouille-toi, d'accord ? Et puis, vous avez en face, je vais vous donner des exemples après, hein, les traductions à équivalence dynamique. Vous en avez trois en français. La Semeur, du côté évangélique, Parole de vie, œcuménique, et Nouvelle français courant, œcuménique. Là, on privilégie la langue réceptrice. Comment on le dirait en français ? On est fidèle au sens du grec et de l'hébreu. Elles sont fidèles au grec et à l'hébreu, mais... Comment ça, je le dirais en langue française pour que ce soit compréhensible en français? On va prendre plusieurs exemples. 1 Pierre 1,13 nous invite à ceindre les reins de notre entendement. Quelle est la dernière fois que tu as ceint les reins de ton entendement? Saigner, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais ceindre les reins de mon entendement. Saigner les reins de votre entendement. En plus, il y a des homonymies à l'oral qui rendent les choses compliquées. Hein, saigner, ceindre, mettre une ceinture aux reins de son entendement. Ça, c'est littéral. Du coup, dans une traduction à équivalence dynamique, on vous dira plutôt « tenez-vous prêt pour le service ». Parce que c'est l'image de la ceinture qu'on mettait. Hein, on avait des robes dans l'Antiquité, d'accord, même pour les hommes. Et donc, si on voulait faire quelque chose, il fallait mettre une ceinture pour remonter les pans de sa robe. Donc, se ceindre, mettre une ceinture, c'est se tenir prêt. Les reins de son entonnement, du coup, voilà, être prêt, être en état de vigilance. 1 Pierre 1,13. Ou alors, Jérémie 17,10. Moi, le Seigneur, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Il est néphrologue, le Seigneur. Ça veut dire quoi? Je sonde les reins. Vous voyez? Il faut un bagage biblique important pour décoder, dire c'est quoi les reins dans la mentalité biblique. Je sonde les reins. Dans une traduction à équivalence dynamique, on aide le lecteur et on lui dit je perce le secret des consciences. Bon, on a perdu les reins. C'est dommage parce qu'on pourrait faire une enquête sur tous les passages où il y a les reins, donc c'est pas mal, une littérale est bien pour les études de mots. Mais au moins j'ai compris ce que ça voulait dire. L'idéal, c'est d'en avoir une de chaque groupe. C'est-à-dire une littérale et une à équivalence dynamique, quand vous voulez étudier un passage. Alors ne prenez pas second, Nouvelle Bible second, second 21, et vous voyez, ça c'est les mêmes. Hein. D'accord ? Il faut vraiment une de chaque groupe. D'accord ? Et ça vous aidera ici, dans le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. On l'a tous appris par cœur et on va le dire tout à l'heure. Bien sûr, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un petit malin, il vous dira que ton nom soit saint. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben là, en général, on cale. Ça veut dire quoi que le nom de Dieu soit saint, qu'il soit sanctifié? Fais-toi reconnaître comme Dieu, que chacun reconnaisse qui tu es. Vous voyez, j'ai aidé le lecteur, en fait, dans la traduction, je suis allée du côté de l'équivalence dynamique. Ah oui, fais reconnaître à tous qui tu es. Là, je comprends. Je comprends du coup. Donc, un conseil, c'est d'avoir une de chaque, si vous voulez, un encouragement à avoir plusieurs traductions. Alors, en conclusion, est-ce qu'on va lapider nos traducteurs, puisqu'ils ont eu des a priori? Non. Mais on va utiliser un antidote, quand même. On va oser comparer plusieurs traductions. Et voilà les questions qu'on peut se poser. Que trahit-on en restant fidèle, en disant qu'on est fidèle à la lettre? Finalement, qu'est-ce qu'on trahit? Et inversement, à quoi est-on fidèle en trahissant? Quand on ose une traduction dynamique, finalement, à quoi on est fidèle? Est-ce qu'on n'est pas fidèle à l'esprit du texte? Il y a un mathématicien, Gödel, qui avait démontré ce théorème que la périphérie influence le centre. Et là, c'est l'idée que vos traducteurs, en fait, ont été les enfants de leur époque. Ils ont été influencés aussi par leur culture, par leur genre, par leur confession, d'où l'importance d'avoir plusieurs traductions. Vous voyez ce très beau tableau impressionniste, là, d'un tableau, c'est parce que ce que je voudrais vous laisser, c'est plutôt que ce slogan lapidaire, traduire, c'est trahir, en fait, traduire, c'est bâtir. Bâtir un pont entre le monde du lecteur et le monde du texte, pour le dire un peu en termes ricœuriens. Traduire, c'est bâtir. Le monde du texte, le monde du lecteur, ici. La traduction bâtit un pont. Notre démarche, vraiment, en tant que traducteur, c'est d'essayer de faire le pont vers le lecteur. Et souvenez-vous que le christianisme n'est pas la religion du livre. On a dit ça de nous, mais nous, on ne dit pas ça. Le christianisme, c'est une rencontre. Donc on peut, vous voyez, dans nos traductions, oser finalement aussi cet esprit, et pas seulement la lettre. Je vous laisse peut-être cette dernière citation ici, qui me touche beaucoup, de Lévinas, penseur, philosophe juif, à propos de la Bible. Voilà ce qu'il nous dit. « Dans chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. Vous êtes attendu devant le texte. Vous êtes attendu. Il y a dans chaque mot un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. » Est-ce qu'on sait qu'on est attendu devant le texte?
Traduction de travail, généralement, d'études, c'est la colonne.
Oui, hein, oui.
De 1978. Oui. Et qui traduit... Comment on traduit maintenant?
Exactement. Merci de le souligner. Notre nouvelle, elle est... Voilà. Et ça, les cathos ne le savaient pas, on leur a dit. Ils ont bien rigolé parce qu'ils pensaient proposer un truc nouveau. Et pour les protestants qui avaient du mal avec la nouveauté, on leur a dit, vous savez, en fait, en 78, la colombe, elle l'avait déjà proposé. Ah bon? Ah, en fait, c'est protestant. Ah bon, alors si c'est protestant... Voilà, donc on a joué sur le... Alors, pour cette phrase-là, ne nous laisse pas entrer en tentation. Tous les traducteurs du monde entier vous diront, c'est intraduisible, en fait. On est tous d'accord que ce n'est pas traduisible. Donc, quoi qu'on choisisse... Il n'y en a pas une qui est meilleure, il y en a peut-être qui sont pires, mais il n'y en a pas une qui est meilleure. Il faudra de la pédagogie pour dire ce qu'on veut dire. De toute façon, ça c'est une phrase où elle impose qu'on fasse de la pédagogie pour dire ce que ça veut dire. Dieu ne tente personne, et là je lui demande de pas... Enfin vous voyez, il y a vraiment un vrai souci de traduction. Aucune n'est parfaite. Aucune n'est pleinement satisfaisante.